Je vais commencer par une petite anecdote. Il y a quelques semaines, j'ai eu un gros ennui, vraiment un gros souci, puis je savais plus comment j'allais faire, comment j'allais gérer. J'ai mon téléphone portable qui m'a lâché. Ouh. Ah, la panique! Je vous raconte pas. La panique. Et voilà, du coup, je savais plus comment faire parce que effectivement, pour moi, c'est un outil de travail. Je gère toute ma communication avec ça. Donc, alors, comment j'allais faire? Alors, voilà, je me suis. Enfin, j'ai essayé de voir pour en acheter un autre. Alors, absolument, moi, ce qu'il me fallait, parce que comme c'était un grand écran pour l'agenda, il me fallait au moins l'iPhone 6 Plus. La dernière version, c'est 7, quoi. Mais vraiment, je ne pouvais pas descendre en dessous, vous voyez? Bon, et puis finalement. Puis, oui, je ne pouvais pas descendre en dessous. Et puis, je criais au Seigneur, mais Seigneur, tu te rends compte comment j'en ai besoin? Il me faut un 6 plus et tout, et au moins. Et, voilà. Un gosse, quoi. Bon, et puis finalement, j'ai trouvé d'occasion un 4S, et puis ça me va très bien. Tu peux mettre la première diapo, s'il te plaît. Qu'est-ce que la technologie peut prendre comme place dans nos vies? N'est-ce pas? Trop, en tout cas, bon, la technologie, il y a des merveilles hein, qu'elle permet. Hein. Si on en reste même au niveau de l'électroménager, par exemple, on voit tout le temps que ça dégage aussi hein, pour d'autres activités. Ça nous libère pour d'autres choses. Hein. On voit comment, justement, tout ce qui est écran, ça nous permet de bien gérer la communication. Quoique ça rajoute aussi des choses par rapport à la communication. Bon, on pourrait aussi parler de toute la dépendance en même temps hein, que ça génère chez nous par rapport aux machines. On parle de technodépendance. Voilà. Et effectivement, le problème, c'est quand, voilà, quand ça ne fonctionne plus. Hein. Et là, c'est la crise. Je suppose que c'est arrivé à certains, là, ici. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de mon ordinateur, de mon téléphone, alors là, ma femme n'existe plus, mes enfants n'existent plus. La seule chose, c'est qu'il faut que je règle la solution. Voilà. Donc, quand toutes ces machines, toute cette technologie fonctionne, c'est super. Et quand elles dysfonctionnent, par contre, ça peut être compliqué. Alors, tout dépend après quel rapport on a avec ces choses. Mais c'est de pas de technodépendance que je voudrais parler ce matin, mais c'est de dire combien nous, ben nous sommes un peu comme des machines qui peuvent très bien fonctionner ou qui peuvent aussi dysfonctionner. Hein, on voit comment il y a des choses qui peuvent clocher chez nous. On voit comment, voilà, il y a des choses qu'on essaye de faire. Hein, Paul le dit. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et puis je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Et on voit comment il y a des choses qui peuvent se répéter dans nos vies où on n'arrive pas. On est comme des ordinateurs qui buguent. Voilà, je me suis entraîné toute la semaine pour faire le bug, mais bon, il faut que je continue. On voit comment on peut être des ordinateurs qui buguent, des machines qui dysfonctionnent. Et ça, Paul en parle déjà. La Bible en parle déjà. Ça ne date pas, bien sûr, d'aujourd'hui. Et je voudrais vous lire le passage de. Tu peux recliquer. Le passage de Romains. On ne voit pas très bien. Romains 1, les versets 21 à 32. Et vous allez voir que Paul parle très bien de cet état que nous vivons, que nous retrouvons aujourd'hui au travers notamment des exemples que j'ai pu donner en début de message, mais voilà, qui se retrouvait sous d'autres formes à cette époque. Et je commence la lecture au milieu du verset 21. Il y a une dizaine de versets, mais je pense que c'est bien de pouvoir aussi, c'est une manière de proclamer la parole et de pouvoir vraiment se rendre compte à quel point. Voilà, il y a des choses qui nous ont abîmés. Ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. De sorte qu'ils commettent des actes indignes, ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif, de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux, pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant digne de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore, ils approuvent ceux qui agissent de même. Nous voyons là, nous lisons là l'étendue de ce dysfonctionnement que nous pouvons manifester de part et d'autre, de diverses manières, plus ou moins. Et là, je prends toute l'humanité quand je parle de cela. Nous sommes comme des ordinateurs qui buguent, on pourrait dire aussi comme des ordinateurs qui sont contaminés, qui sont infectés, qui ont un virus. Et Paul y parle de cette corruption. Alors bien sûr, on ne se prosterne plus devant des serpents, devant des grenouilles ou je ne sais quoi. Mais voilà, ça prend diverses formes, ça prend d'autres formes. Nous nous prosternons devant l'argent. Nous nous prosternons devant notre confort. Nous nous prosternons devant notre réputation. Nous nous prosternons devant quoi encore ? Enfin, on pourrait citer plein d'autres choses. Plein de choses où on essaye par nous-mêmes de s'en sortir, de se sauver soi-même. Nous avons une pensée, nous ne pensons pas juste. Nous ne pensons plus juste. Alors bien sûr, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et même quand on n'a pas rencontré Dieu, il y a quelque chose en nous qui subsiste de cette image, qui fait que ce n'est pas complètement n'importe quoi, parce que quand même, l'homme est capable d'une certaine manière de bonté, et ça, c'est l'image de Dieu en lui. Mais on voit aussi comment nous ne pensons pas juste. Et on le lit bien, ça, dans ce premier chapitre de Romains. Et on voit que dans tout ce vers quoi ça nous emmène, c'est important les pensées. Une pensée produit un acte. Un acte mène vers des habitudes, des comportements. Des comportements mènent vers des habitudes et des habitudes mènent vers une culture. Et nous avons une culture où, par certains égards, il peut y avoir l'image de Dieu, mais nous avons aussi, enfin, les cultures humaines, on voit comment il y a plein de choses qui ne sont pas de Dieu. Je vais vous donner un exemple, comment, par exemple, dans ma famille, il y a toujours eu une sorte de, il y a eu une sorte de culture du reproche, où voilà, dès que l'autre ne fait pas bien, on vient lui reprocher. On n'arrive pas à faire ressortir ce qu'il fait de bien. Et puis, je ne pense pas que ce soit que dans ma famille. Je crois que c'est une culture qui est très française, pour moi qui viens de France, et puis qui est, pas seulement française, je pense qu'on pourrait l'étendre un peu quand même. Et vous voyez comment, alors que Dieu, c'est quoi ? Dieu, il n'est pas dans la culture du reproche. Dieu, il est dans la culture de l'encouragement. L'encouragement, ça, c'est biblique. Et quand on est dans l'encouragement, là, voilà, là, on est dans la culture de Dieu. Un autre exemple, La Chaux-de-Fonds, c'est une ville où on fait beaucoup la fête. On a beaucoup la fête, il y a souvent des festivals, il y a souvent des choses, voilà. Et c'est super de faire la fête. Hein, les fêtes, ça vient d'où ? C'est Dieu qui a donné les fêtes. Hein ? C'est Dieu qui a donné les fêtes pour le célébrer, pour célébrer la joie. À l'origine, c'est ça. Mais quand la fête, ça devient quelque chose qui vient combler le vide de ton existence, parce que voilà, il y a des choses, et tu veux oublier des choses qui te pèsent, mais sauf que tu fais n'importe quoi, tu t'abîmes, tu fais la fête jusqu'à parfois même certains te détruire. Ben là, ça ne va plus. Et vous voyez comment tout ça s'est mélangé. Et c'est un dysfonctionnement qui est profond. Voilà, tu m'as devancé un peu. C'est pas grave, laisse. Merci. Tu as bien fait. Bravo, Jean-Pierre. Je t'approuve. Voilà, merci, tu me soutiens bien. Merci. Voilà, nous voyons comment ce dysfonctionnement, il est profond. D'abord, je suis ici. Hein, j'étais impressionné. Quand on a eu notre premier ordinateur, alors, mon père, il a toujours été fou d'informatique, et je le voyais régulièrement aller trifouiller les programmes de l'ordinateur. Dès qu'il y avait une chose qui n'allait pas, il rebootait tout. J'ai plus le terme, comme on dit. On effaçait tout et on recommence. Il reformatait, voilà. Voilà. Il reformatait. Alors là, je voyais tout le temps dans la machine. Et ça m'a toujours aussi impressionné de voir des personnes qui sont à l'aise en informatique, alors à commencer par les informaticiens, hein, qui savent aller comme ça dans les endroits cachés de la machine pour essayer de retrouver justement ce qui bug, ce qui dysfonctionne, et essayer de le rétablir. Et nous sommes des machines qui peuvent... Nous sommes comme des machines qui peuvent bien fonctionner et qui peuvent aussi complètement dysfonctionner, comme on l'a dit. Et c'est un dysfonctionnement qui est profond. C'est profond en nous. C'est pour ça aussi que j'ai mis l'image, alors voilà, je ne sais pas si on voit bien, d'un iceberg. Même la Bible dit « Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes ». Encore dans les Proverbes, on dit que seul Dieu sonde les cœurs. C'est vraiment quelque chose qui est profond. On a dans notre pensée, on pourrait notre pensée la représenter comme ça, la pensée humaine. Il y a tout ce qui est conscient, tout ce dont on est conscient, et puis il y a tout ce qui est inconscient. Il y a tout ce qui est inconscient. Et ça pèse. Et ça a même beaucoup de poids, plus de poids que ce qui est conscient. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Je suppose que vous ne vous souvenez pas de tout ce qui s'est passé dans votre enfance. Puis il y a même des choses qu'on préfère oublier. Et puis ça, d'ailleurs, ce sont des mécanismes que Dieu a mis qui sont aussi... Il y a des fois, il y a des choses qu'il vaut mieux oublier. C'est-à-dire, à un moment, Dieu, il permet qu'on mette ça de côté pour peut-être après faire revenir ce qui est nécessaire pour avancer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui est profond et qui agit. Je pense à... Un homme qui me racontait combien il avait grandi avec des parents qui étaient alors bardés de diplômes, qui n'arrêtaient pas d'être actifs, qui faisaient plein de choses, qui réussissaient plein de choses dans leur vie. Le père, il était chef d'entreprise, il avait un travail, et puis en même temps, il avait une entreprise indépendante, et puis ouais, plein de choses. Et à chaque fois, lui, ce qu'on lui renvoyait, c'était « tu ne suffis pas, tu n'es pas suffisant, fais-en plus ». Jusqu'à ce que finalement, à une vingtaine d'années, ce gars finisse par faire un burn-out. Et comment il a réalisé par la suite que cette parole, finalement, c'était quelque chose qui l'avait emmené jusque là-dedans. Et puis, il ne s'en rendait pas compte au départ. Et on voit comment tout ça, ça a du poids. Et ça conditionne aussi nos comportements, nos habitudes. Et vous voyez toutes ces choses-là. Je parlais tout à l'heure de l'image de Dieu, que nous sommes construits à l'image de Dieu, mais il y a le péché qui est venu nous abîmer. En fait, tout ça vient se mêler à toutes ces choses. Là-dedans, il y a des choses qui sont de Dieu, mais dans ce qui est inconscient, là, dans ce qui est profond, il y a des choses qui sont de Dieu, mais il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Il y a tout aussi le poids des générations qui ont précédé. Tout à l'heure, quand on a prié, il a été prié par rapport à des malédictions. Il y a des, voilà, il y a des choses comme ça, il y a des malédictions, il y a le poids des générations. Et il y a plein de choses dont on n'a pas conscience qui sont là et qui viennent nous déformer et qui font que nous ne pensons pas juste. Et à un moment, ça ne sert à rien d'essayer de changer les comportements sans finalement toucher à cela. Je m'explique. À un moment, grâce à Alain, il a été... vous savez que j'ai eu pas mal d'amendes pour excès de vitesse. Merci Alain. Ah bon, c'est moi qui l'ai raconté. Ok. Non, t'en as rajouté une couche. Mais... Non, maintenant je me suis calmé. Mais voilà, vous voyez, j'aurais pu me dire, mais faut vraiment que j'arrête. Mais c'est pourquoi ? Est-ce que à un moment je me mets à conduire vite et il faut absolument que je sois à l'heure et, parce que voilà, j'ai eu un fonctionnement où il fallait absolument que je contrôle les choses. Il fallait le temps, c'est un peu contrôler le temps, c'est un peu une obsession, des choses comme ça. Mais voilà, il y a beaucoup d'insécurités en fait qui sont à la base de cela. Et moi, si je ne vais pas à la racine de cela, si je ne laisse pas le Seigneur aller à la racine de cela, j'aurais beau essayer de changer ce comportement, ça ne changera pas. Pour vous dire à quel point ce sont les pensées, tout se joue au niveau des pensées. Mais alors, comment faire ? Que faire quand ce dysfonctionnement il est si profond ? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Quel va être l'antivirus ? Qui va nous permettre de reprogrammer. Hein, on a besoin d'une remise à jour. On a besoin d'être nettoyé et de pouvoir fonctionner beaucoup mieux. On a besoin d'un firewall. On a besoin d'un mur de feu. Quelque chose qui va nous permettre, une fois qu'on est nettoyé, une fois qu'on est reprogrammé, de pouvoir discerner justement ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas, ce qui est dans l'image de Dieu qui est en nous et ce qui ne l'est pas. Et c'est quoi cet antivirus ? Bien sûr, c'est ce que dit Paul dans cet épître aux Romains, avant tout ce que nous avons lu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour tout homme et toute femme qui croit. C'est ça, l'évangile, c'est cet antivirus. Dieu a donné à ce monde cet antivirus qui va aller au plus profond de nos pensées, qui va agir dans nos pensées et qui va nous rétablir selon ce que nous devons être vraiment. Mais pour que cet antivirus il fonctionne, il y a une condition. Pour que cette reprogrammation se fasse, il y a une condition. Et on le voit dans ce verset. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Qui croit, alors, bon, normalement, il devrait être là, mais ce n'est pas grave. Hein. Vous avez compris que c'est sur ça qu'on insiste. C'est ça la condition pour que cet antivirus, quel évangile fonctionne en nous. C'est de croire. Et ce n'est pas le croire qui a été traduit en latin, dans la Bible, dans la Vulgate, c'est une Bible en latin, où c'est credo. Credo, vous savez ce que ça a donné en français ? Ça a donné crédule, crédulité. Mais le mot grec derrière qui croit, c'est pisteo. Pisteo, ça signifie avoir foi. Ça signifie faire confiance. En latin, c'est traduit par fides. C'est ce qui a donné fidélité. Le salut de quiconque croit, c'est celui qui est fidèle à la parole de Dieu. C'est celui qui marche en faisant confiance, qui croit que vraiment que Jésus est la vérité. L'évangile, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle. Enfin, c'est la bonne nouvelle, mais ce que je veux dire, ce n'est pas simplement une information. Ce n'est pas une simple information. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Cela agit. C'est vivant. Ça agit en nous. Ça agit en nous. Il y a quelque chose vraiment qui se passe à l'intérieur de nous à condition que nous fassions confiance. Pour que ce soit peut-être plus concret, je voudrais parler de terminer par deux champs d'application de cela. Le premier champ, c'est ce qui concerne la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Alors, on en parle souvent, l'importance de lire la Bible régulièrement. Mais oui, c'est important. Oui, c'est important. C'est important parce que parfois, on peut résister à lire la Bible régulièrement parce qu'on se dit, mais de toute façon, je ne comprends rien. Ça ne sert à rien, je ne comprends rien. Mais comprenez bien que quand on réagit comme ça, on ne réagit pas en homme ou en femme spirituelle. On réagit en homme ou en femme psychique, comme le dit Paul dans Corinthiens. C'est-à-dire, on part du principe qu'il faut que l'on comprenne pour que ça fasse quelque chose automatiquement dans nos vies. Alors bien sûr, il faut comprendre des choses. Et quand on ne comprend pas quelque chose, il faut s'adresser à des personnes qui vont pouvoir aussi nous expliquer, qui vont nous permettre d'aller plus loin. La Bible, elle ne s'étudie pas toute seule. Elle se mange aussi ensemble. Et on a besoin des révélations que les uns et les autres reçoivent. Mais c'est pas forcément nécessaire de comprendre pour que ça agisse en nous. Moi, la Bible, par exemple, je la lis régulièrement, je la lis à voix haute. Je la lis à voix haute parce que je crois que cela agit en moi. Et même si je ne la lisais pas à voix haute, mais bon, Jacques dit, c'est important de confesser. Et donc, c'est une sorte de confession, de proclamation. Tu n'as pas besoin forcément de comprendre pour que ça agisse en toi. Tu as juste à faire confiance. L'évangélisation, elle commence là. L'évangélisation, elle commence en soi. C'est ça, cette reprogrammation, c'est l'évangélisation. C'est Dieu qui vient rencontrer les terrains dans nos vies qui n'ont pas été conquis par cet évangile. Et il y a des choses qui ont encore besoin d'être conquises par le Seigneur dans nos vies. Et ça, la méditation de la parole quotidienne est importante parce que sans même qu'on s'en rende compte, Dieu vient agir en nous. Il vient agir dans ces profondeurs où on n'a pas besoin de tout savoir. S'il y a des choses qui sont restées en dessous, Dieu, il sait ce qu'il a à faire avec cela. Mais par cette méditation quotidienne de la parole, Dieu vient agir en nous. L'évangile de Dieu vient agir en nous. Et je vous encourage vraiment à être dans cette évangélisation de ce qu'il y a au plus profond de vous. Et une fois que c'est évangélisé, on entre dans la sanctification. C'est un autre chapitre. Parce que la parole, elle est vivante. La parole, elle est vivante. Elle agit. Et c'est à cela qu'il faut faire confiance. Je veux juste vous donner le témoignage d'un homme qui m'a partagé son histoire il n'y a pas longtemps. Un gars qui avait vécu dans une famille, ça ne se passait pas très bien. La maman était très, ce qu'on appelle, dysfonctionnelle. Et ce qui n'allait pas chez cette maman, ça poussait le papa à être violent avec ses enfants, à exercer la discipline d'une manière pas du tout appropriée et maltraitante envers donc ce gars-là et puis son frère plus jeune, jusqu'à ce que quand ce gars a eu 12-13 ans, là, il a fini par se rebeller, par envoyer un coup de poing dans la figure de son père. Et sauf que lui, il s'est engagé par la suite dans les arts martiaux. Alors, il était dans toute une recherche personnelle à chercher à contrôler ce qu'ils appellent le ki, des choses comme ça. Mais il s'est rendu compte qu'au moment, il était vraiment centré sur lui, tourné vers lui-même. Il s'est dit, mais je devrais me tourner vers les autres, quoi. Et donc là, il s'est tourné vers les autres en allant vers l'islam. Donc, il s'est converti à l'islam et puis il était prêt à aller dans le djihad. Quand il était assez jeune, quand il avait peut-être une vingtaine d'années, jusqu'à ce qu'il rencontre des amis chrétiens, là évangéliques, qui avec qui ils se sont liés d'amitié avec lui. Et puis, Et puis du coup, il est allé un jour dans un culte, et c'était vraiment le moment où il devait y être. Et là, lui, il se présente. Alors, bonjour, je m'appelle, nom, prénom, je suis musulman, je crois en Allah et Mohammed est son prophète. Voilà, donc vraiment dans la provoque. Et il se trouve qu'à l'issue du message, il y avait un sketch qui a été joué par Farid et je ne sais plus le nom de son épouse, mais voilà, un couple d'anciens musulmans qui s'étaient convertis à Jésus et qui étaient en train de jouer le passage de Jésus avec la Samaritaine. Wow. Et là, il y a une parole qui ressort pour lui. Waouh, ça c'est fort. Il y a une parole qui ressort pour lui, c'est « Quiconque vient à moi n'aura plus jamais soif. » Je sens la force de cette parole en vous le disant. Quiconque, physiquement, quiconque vient à moi n'aura plus jamais soif. Et la parole lui est restée. Ça fait boum, boum, quiconque vient à moi n'aura plus jamais soif. Quiconque vient à moi n'aura plus jamais soif. Puis il y avait ça qui restait, qui revenait. Et du coup, il avait une Bible. Et donc, il ne savait pas où était le verset. Alors il s'est mis à lire l'évangile de Jean à partir du début. Et puis comme il ne comprenait pas tout, il revenait un chapitre, deux chapitres en arrière, et puis il continuait de 19h à 2h du matin. Et pendant qu'il était en train de lire cet évangile, parce que finalement, une fois qu'il a trouvé cette parole, bah, il a continué. Pendant qu'il était en train de lire l'évangile de Jean, il était en train de pleurer. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Et il sentait le Seigneur qui venait de le restaurer de tout ce qu'il avait, bah, de tout ce qu'on lui avait fait subir. Et de tout ce que lui, il avait fait par la suite. Il sentait cette évangélisation en lui, sans qu'il sache forcément, sans qu'il comprenne où exactement ça venait le toucher. La parole est vivante, elle est puissante, elle est agissante. Amen. Méditons la parole, même quand nous ne comprenons pas. Prenez juste un verset par jour. Voilà. Le Seigneur, ceux qui ont besoin d'être renouvelés là-dedans, le Seigneur va vraiment vous... Il a des clés pour vous. Et le dernier terrain dont je voudrais parler par rapport à cette évangélisation de nous, de laisser agir cet évangile dans la confiance, c'est le terrain du service. C'est le service. Alors on pourrait dire le ministère. Waouh, gros mot, ministère. Et le ministère, tout simplement, c'est le service. Et nous sommes tous appelés à servir. Et vous le savez, souvent, on le dit, en tant que pasteur, les responsables d'église, voilà, qu'il y a de nombreuses choses à faire dans l'église. Il y a de nombreux besoins. Il y a de nombreux besoins. Retournez-vous. Regardez dans le fond. Voilà, on a là deux panneaux. Qui vous montre les différents... On a essayé de représenter les différents services qui existent dans l'Église. Ça a été fait par les soins de Dani et d'Yvette. Et voilà, alors c'est... Bon, mais beaucoup Dani, ouais, merci Dani. Donc c'est très bien fait. Alors après, bien sûr, il y a sans doute des choses à revoir parce que l'Église, c'est un organisme vivant et puis ça bouge. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est un moment d'essayer de fixer les choses pour une Église qui est un organisme vivant. Mais vous voyez là les différents terrains d'exercice de l'Église et j'aimerais un moment aussi qui est mettre des feuilles avec les différents besoins qui existent dans l'Église. Vous savez, il y a de nombreux besoins, par exemple au niveau de l'enfance, au niveau des ados, au niveau des... Voilà, on en parle régulièrement. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle ? C'est pas parce qu'on a besoin. C'est parce que le service, c'est une grâce. C'est parce que le service, c'est une grâce. Vous rendez... Il y a quelque chose de complètement fou dans l'Évangile. Ce qui est fou, c'est que en balayant, tu te mets à ressembler de plus en plus à Jésus. Dans le sens où ce qui va, c'est l'attitude dans laquelle je fais le service qui va être déterminante. Alors c'est sûr, si je suis en train de râler, non, ça n'agira pas. Mais au travers du service, de la même manière que pour la méditation de la parole, au travers du service, Dieu agit en moi. et il vient rencontrer tout ce qui a besoin d'être changé. Amen. Et là, je parle de service dans l'Église, mais le service, c'est au-delà. Le service, c'est dans nos vies. Le service, c'est avec les personnes que nous côtoyons quotidiennement. Le service, c'est par exemple quand hier matin, il y avait des personnes qui étaient là pour inviter au concert, pour donner un papillon de Jean 3,16 avec un évangile de Jean. Il y a des personnes qui étaient là hier qui l'ont fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient donner un témoignage de comment ça s'est passé pour elles ou un contact qu'elles ont eu en quelques minutes? Juste avant, pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai toujours ressenti quelque chose quand j'étais amené à témoigner à quelqu'un. C'est comment, en fait, tu te sens vivant. Quand tu témoignes à quelqu'un et quand il y a une discussion qui s'installe, surtout quand la personne elle est réceptive, mais pas forcément, mais en particulier quand la personne elle est réceptive, tu sens que tu es toi. Tu es toi en Dieu. Tu es vivant. Je ne sais pas si vous avez pu ressentir ça, les personnes qui ont... Est-ce qu'il y a un témoignage?
J'étais pas là hier, j'étais à la maison, mais il y a une chose que j'ai réalisée. Chaque fois qu'on témoigne de notre foi, de qui est Jésus, on le fait pour les autres, mais quelque part, ça fixe quelque chose en nous de cette vérité. De la même manière, chaque fois... qu'on prend soin de quelqu'un qui a des besoins. Souvent, on a des besoins nous-mêmes. Et sans qu'on sache comment, Dieu il prend soin de nos besoins quand on prend soin des autres. C'est juste un truc, je sais pas comment, c'est fou, je sais pas comment ça se passe, mais je crois vraiment que c'est comme ça que ça se fait.
Merci Yvette. Mais lui, il sait comment ça se passe.
Moi, j'aimais énormément... accoster les gens dans l'amour, bien sûr. Puis j'arrive sur place, là, et puis Alain, il me dit, écoute, tu gonfles des ballons? Puis il me dit, mais j'ai jamais fait ça. Alors je me dis, ben ok, il faut obéir à son supérieur. Hein. Alors je gonfle des ballons, puis il me dit, mais Seigneur, tu connais mon cœur, moi je préférerais parler aux gens que de gonfler des ballons. Une réaction humaine, bien sûr, hein. Mais bon, c'est le service. Et puis tout d'un coup, Alain est allé en ville avec les jeunes, là. Puis j'étais en train de gonfler de la réserve de ballons. Et tout d'un coup, il est venu une douzaine de jeunes de 18 ans. Ça m'a poussé. Eh, monsieur, on voit un ballon. Alors j'en ai fait. Rendez compte, des grands gaillards, des filles, puis des garçons. Ils viennent. On voit un ballon. OK, moi, je n'arrivais pas à suivre. Hein. Je me dis, ah ben, c'est bien. Et puis tout d'un coup, il m'est venu, mais tu vois, tu aimerais annoncer l'évangile, mais je t'envoie 12 personnes pour annoncer l'évangile, Jean 3,16. Alors au lieu d'être seul, j'ai eu 12 personnes pour aller plus loin.
Merci Denis. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Où est-ce qu'il veut nous rencontrer? Peut-être justement où est-ce qu'il veut nous rencontrer dans cette confiance de l'Évangile, de ce que sa parole, cette bonne nouvelle de Jésus est produite en nous, de ce qu'elle veut rétablir de l'image de Dieu en nous, pour que nous soyons pleinement à lui et que nous annoncions pleinement qui il est. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Sur les ballons, c'était marqué Jean 3,16. Donc c'est pour ça que voilà, il y avait 12 personnes, 12 disciples potentiels de Jésus qui étaient avec leur ballon Jean 3,16 et tout le monde pouvait dans la ville voir Jean 3, 12 jeunes avec un ballon Jean 3,16. C'est quoi Jean 3,16? Amen. Où est-ce que Dieu veut te rencontrer ce matin? On peut se mettre en prière. Où est-ce que Dieu veut te rencontrer ce matin? Est-ce que c'est dans cette méditation de la parole? Comment le Seigneur veut t'amener à faire vraiment confiance encore plus à cet évangile, à cette bonne nouvelle? Peut-être justement tu n'as jamais accueilli Jésus-Christ dans ta vie. Et là, tu entends, comme cet homme qui à un moment a entendu cette phrase, « Mais quiconque vient à moi n'aura plus jamais soif. » Et peut-être toi, il y a une parole qui te reste. Sache que s'il y a une parole qui te reste, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et que tu puisses laisser le Seigneur te convaincre, parce que c'est lui qui convainc. Que tu puisses le laisser entrer dans ta vie, parce qu'il veut vraiment que tu sois réconcilié avec lui, lui qui est ton Créateur. Peut-être il y a des personnes ici qui sont peut-être fâchées avec la parole, qui se disent « mais moi, j'arrive pas à m'y mettre régulièrement et de toute façon, je comprends rien. » Que tu puisses tout simplement faire confiance à ce que Dieu fait en toi. Il y a des moments où tu ne comprendras rien, il y a des moments où tu recevras des révélations. Et vraiment, que le Seigneur puisse te renouveler. Et si tu es déjà dans cette confiance avec la parole, que tu puisses être renouvelé encore plus. Puis il y a des personnes parmi nous qui... Dieu les appelle à un service en particulier. Dans l'Église, au-delà de l'Église, l'un et l'autre, plus particulièrement un endroit qu'un autre, Seigneur, où est-ce que tu veux toucher chacun ici? Qu'on puisse entrer dans ce service, pas parce qu'il y a des besoins dans l'Église, mais parce que nous voulons t'honorer. Et nous voulons que ton évangile vienne s'ancre en nous et que nous soyons ancrés en toi. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire par la suite. Dans le nom de Jésus. Amen.